Tu portes ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Réconciliation. Ce mot peut sonner mal, peut engendrer l'étonnement, voire la méfiance. Mais rassurez-vous, chers fidèles, ce n'est pas pour préparer le terrain à une réconciliation avec la Rome moderne, moderniste, ni même pas pour inviter ou accepter un évêque conciliaire qui voudrait finir ses jours en tant qu'aumônier de nos deux écoles, ou tout simplement pour pouvoir célébrer de temps en temps une messe pontificale pour nos frères étudiants. Non, ce n'est pas de cette réconciliation qu'on va parler, qui est impossible, comme il est impossible de réconcilier l'erreur et la vérité. C'est une autre réconciliation que nous allons dire quelques mots, celle qui est si nécessaire, tout à côté de nous, dans nos propres familles, aussi bien familles de la chair que celle spirituelle. Voyons donc pourquoi et comment devons-nous nous réconcilier. Mais avant de traiter le pourquoi et le comment de la chose, voyons ce que c'est cette réconciliation. Réconcilier, dit sagement un dictionnaire, c'est rétablir des liens d'amitié ou d'affection entre des personnes fâchées, brouillées, opposées jusqu'à la crise, le conflit. Il s'agit d'un changement de rapport et de relation où la paix succède à l'inimitié, l'entente à l'hostilité, l'union à la rupture. Se réconcilier, conclut saint Thomas, est se remettre bien ensemble, redevenir amis, réparer l'amitié. Sachons-le, chers fidèles, que le tout premier intéressé à notre acte de réconciliation n'est pas du tout notre prochain, prochain offensant ou offensé, mais c'est notre Seigneur lui-même. Il nous y pousse, il nous y oblige. Rappelons-nous l'évangile de ce dimanche. Si tu portes une offrande à l'autel et que là, il te revienne en mémoire que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, tu reviendras présenter ton offrande. Ainsi, aucune prière, aucun sacrifice, pas même l'oblation du corps et du sang de son Fils n'est agréable à Dieu si elle part d'un cœur indifférent au dommage que souffre la charité. On raconte de saint Jean l'aumônier, patriarche d'Alexandrie, le trait suivant. Un jour, pendant la sainte messe, il se souvient, en arrivant à l'offertoire, qu'un ecclésiastique de son diocèse, que notre saint a dû excommunier pour sa mauvaise conduite, avait proféré contre lui toutes sortes d'injures. Aussitôt, il prescrit au diacre, qu'il assistait à l'autel, de prolonger les prières jusqu'à son retour. Pour lui, feignant une indisposition, il se rend à la sacristie et mande en toute diligence l'ecclésiastique qui l'a puni. Celui-ci, heureusement, se trouvait dans le voisinage. Il accourt. À peine est-il sur le seuil de la porte que l'évêque se met, à ses pieds et lui dit « Pardonnez-moi, mon frère. » L'autre stupéfait se jette à genoux à son tour, demandant miséricorde. Saint Jean l'aumônier se relève, le relève, l'entraîne à l'église et se fait assister de lui pour achever le saint sacrifice. L'ecclésiastique fut si ému de cette aventure qu'il se corrigea et se conduisit dès lors d'une manière exemplaire. Si nous ne pardonnons pas dans le fond de notre cœur à ceux qui nous offensent, nous risquons, chers fidèles, de tomber sous la malédiction de saint Paul. Celui qui mange et boit le corps et le sang du Sauveur indignement, c'est-à-dire sans la charité requise, mange et boit sa propre condamnation. Ne jugeons pas quels égards sont dus au corps du Seigneur. C'est comme si je voulais faire entrer notre Seigneur dans mon cœur, uniquement pour renouveler sur lui les souffrances de la passion. Mes pensées de rancune, de haine, de vengeance que j'entretiens en moi feraient le même office qu'au calvaire, les épines et les clous. Le sacrifice de la messe, le sacrifice de notre Seigneur, est le sacrifice de la réconciliation. Jésus-Christ a été jusqu'à répandre son sang, dit saint Jean Chrysostome. Et vous, pour vous réconcilier avec votre égal, vous ne voudriez pas donner une parole? Quelle horreur, s'indignait saint Alphonse, de voir une religieuse faire oraison tous les jours, communier souvent et néanmoins conserver de la rancune contre une de ses sœurs. Elle ne rougit même pas d'en donner des marques. Quand on parle de cette sœur, elle cherche à la discréditer autant qu'elle le peut. Si elle la rencontre, elle ne la salue pas. Si cette sœur lui parle, elle lui tourne le dos. Mais si elle tourne le dos à sa sœur, Dieu lui tourne le dos à elle-même. Tout cela pour dire que Dieu ne nous pardonnera lui-même qu'autant que nous aurons pardonné aux autres. C'est ce que nous disons, au moins de nos lèvres, chaque jour dans notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs torts, dit encore notre Seigneur, votre Père céleste vous pardonnera les vôtres. Sinon, vous n'obtiendrez pas non plus de lui votre pardon. On peut dire que Dieu aura la même mesure envers nous que nous avons envers les autres. Notre Seigneur désire donc notre réconciliation pour pouvoir nous pardonner et se donner à nous avec toutes ses grâces dans la Sainte Communion. Enfin, le deuxième, pour ainsi dire, bénéficiaire de notre réconciliation est bien sûr notre prochain, même s'il est coupable, surtout qu'il est coupable. Ton frère t'a manqué, dit saint Augustin. Et en te manquant, il s'est fait une profonde blessure. Tu n'as aucun souci de la blessure de ton frère. Tu le vois périr, peut-être est-il déjà mort, et tu ne t'en inquiètes pas? Tu fais plus de mal par ton silence qu'il n'en a fait en t'outrageant. Bien sûr, souvent, pour me réconcilier avec mon prochain, qui d'ailleurs a le talent de m'énerver en toutes choses, j'aurais besoin de faire violence à mon amour propre, de demander un surcroît d'humilité et de charité. Il faut parfois un courage vraiment surhumain pour refouler l'indignation qui bouillonne encore au fond de l'âme et faire le premier des excuses ou des avances. Il ne faut pas alors écouter la voix de l'orgueil qui nous persuade que c'est là s'avilir et se déshonorer. Non, celui-là se montre vraiment noble et magnanime qui fait les premiers pas et prévient la partie adverse. Écoutons l'histoire des temps des premiers chrétiens. Le prêtre Sopris, conduit au supplice, rencontra sur son chemin un de ses anciens amis, Nicéphore, avec lequel il s'était brouillé. Trois fois, Nicéphore se jeta à ses pieds. « Martyr du Christ, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. » Trois fois, le prêtre passa, muet et glacial. Arrivé sur le lieu de l'exécution, Sopris prit peur et apostasia. Ce que voyant Nicéphore s'offrit à sa place pour cueillir la palme du martyr. Voilà où peut mener le refus de réconciliation. Pour un peu plus de clarté, voici quelques règles à suivre. Si c'est moi qui offense, c'est mon devoir de me réconcilier avec mon prochain. Il y a là un précepte. Mais si c'est moi qui est offensé, il y aurait là un conseil de m'employer le premier à l'heure de la réconciliation. Il n'y a pas, sauf l'exception, Saint Jean l'Aumônier, il n'y a pas bien sûr à demander pardon à qui nous fait injure. Il n'y a qu'à lui pardonner. C'est donc celui qui offense qui est tenu de faire la réconciliation, soit par lui-même, soit par un ami. Si l'offense a été mutuelle, celui qui a le plus gravement offensé doit les premières démarches. Si l'offense est égale des deux côtés, c'est celui qui a commencé qui doit chercher la réconciliation. Pratiquement, comme il est difficile de déterminer qui a été le premier ou qui a le plus de tort, il convient d'exhorter les deux parties à faire la réconciliation le plus tôt possible. Nous venons d'entendre que la réconciliation doit se faire promptement. Selon cette recommandation de saint Paul aux Éphésiens, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Plus vite, c'est mieux. Mais ce serait trop souvent demander l'impossible que d'exiger une réconciliation immédiate. Il faut que l'orage des passions se calme, que l'irritation tombe, pour être davantage accessible aux arguments de la raison et aux reproches de la conscience. La réconciliation doit être prompte, elle doit aussi être sincère. En quoi consiste une réconciliation sincère? Son effet propre, son effet nécessaire est de nous changer tellement le cœur à l'égard de celui qui nous a offensés qu'il ne puisse douter lui-même de notre parfait retour à son égard. On peut se faire, chers fidèles, des illusions par rapport à la réconciliation, en se disant, par exemple, « Je pardonne et cela suffit. Je ne lui en veux pas, mais je ne veux pas lui parler ni le voir. » Les autres vont se contenter de quelques démonstrations extérieures, preuves douteuses d'un cœur changé. L'amour que nous devons à celui qui nous a offensés doit donc agir d'abord au-dedans et sur le cœur, le nôtre. Il doit se montrer ensuite au-dehors et dans la conduite. Que le cœur de Jésus, que nous nommons dans cette litanie notre paix et notre réconciliation, qu'il rende nos cœurs un peu plus humbles, un peu plus charitables, pour nous aider à nous réconcilier rapidement et du fond de notre cœur avec ceux qui nous ont causé quelques peines. Que Notre-Dame du Sacré-Cœur nous obtienne cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.